Mais une fois que vous avez défini, vous êtes indépendant. Tout à fait en dehors. Vous définissez par genre les différents spécifiques, vous savez par genre et propre. Mais vous ne regardez plus l'existence. Donc vous ne regardez plus que l'intelligibilité universelle de la chose. Vous définissez. Car réfléchir sur ce que c'est que l'existence. Vous êtes à un niveau, donc, intelligible, c'est très intéressant, c'est très important, mais vous êtes à un niveau abstrait. Vous devez faire un niveau abstrait. Tandis qu'au contraire, quand vous saisissez les principes, vous saisissez toujours quelque chose qui est. Le principe ne fait pas abstraction, ne met pas entre parenthèses le tout à l'image. La phusis, la nature matière ou la nature forme, exprime quelque chose qui est. L'intelligence seule le saisira comme source de ce devenir, comme source de cet être. Et donc ce n'est plus quelque chose d'abstrait au sens de la quantitative, c'est que c'est un nouveau type d'abstraction. Et c'est pour ça qu'à partir de là, les scolastiques ont inventé deux types d'abstraction, et c'est ça qui est très important à saisir. L'abstraction dite universelle, c'est celle au niveau de la définition, et l'abstraction formelle, c'est celle au niveau des principes. Donc je suis en présence d'un nouveau type d'abstraction. Cette abstraction, comme toute abstraction, elle abandonne certaines choses pour saisir d'autres choses. L'abstraction universelle, qu'est-ce qu'elle abandonne? Elle abandonne toutes les notes individuelles. Elle abandonne le point de vue, le fait d'exister, pour ne saisir que la fluidité, l'aspect essentiel de la chose. Donc elle abandonne tout l'aspect existentiel, comme on dit aujourd'hui. Elle abandonne tout l'aspect individuel, tout l'aspect ineffable de l'individu, pour ne saisir que ce qu'il y a de générique, que ce qu'il y a d'essentiel dans la chose. Qu'est-ce qu'on abandonne dans l'induction, donc dans cette abstraction formelle? Qu'est-ce qu'on abandonne? Ah, on abandonne tout ce qui ne va pas être le principe, la phusis forme. On abandonne donc les choses qui ne sont plus à la racine même de la chose, qui ne sont plus la structure de la chose. Oui. La définition met entre parenthèses l'essai. Là, je ne mets plus entre parenthèses l'essai. L'essai est présent, parce que c'est un principe réel, qui existe, qui est. Mais je le sépare de l'aspect matériel. Je le distingue de l'aspect matériel. C'est pour ça que j'ai la phusis forme et la phusis matière. C'est distinct. Je saisis la substance et je la sépare des accidents. La séparation, cette abstraction est une séparation. La séparation est à un autre niveau, elle est dans le jugement même d'être. Très difficile à bien préciser ça, mais c'est très important, parce que ça nous fait saisir que notre intelligence abandonne une manière de regarder pour saisir une autre manière de regarder. Je peux regarder par-dessus, je peux regarder par-en-dessous. Alors, quand je regarde par-dessus, métaphoriquement. Quand je regarde métaphoriquement par-dessus, je saisis la fluidité. Quand je saisis par-en-dessous, je saisis le principe. Vous voyez ? Deux manières différentes de regarder, deux manières différentes d'abstraire. L'une reste uniquement à un niveau de définition, c'est-à-dire un niveau qualitatif, c'est-à-dire le niveau de saisir ce qu'il y a d'essentiel dans la chose, ce qu'il y a de générique, et de propre, et l'autre au contraire veut saisir la racine même de cette réalité.
Oui. Dans cette deuxième connaissance, vous citez la racine même, oui. Est-ce qu'on peut encore employer le mot intelligibilité
Ah oui, oui, je vois. Oui, on a une intelligibilité de beaucoup plus profonde, qui n'est plus une intelligibilité seulement selon la forme, mais qui est intelligible au niveau de l'être, au niveau du devenir. Oui. L'intelligibilité qualitative est un type d'intelligibilité. C'est un type d'intelligibilité. C'est l'intelligibilité capable d'être définie. Oui. C'est donc une intelligibilité plus immédiate pour moi. C'est pour ça que je dirais que c'est l'intelligibilité selon la détermination. Tandis que l'autre, c'est une intelligibilité beaucoup plus radicale, c'est l'intelligibilité de ce qui existe. Alors, c'est l'intelligibilité du devenir, c'est l'intelligibilité du vivant, c'est l'intelligibilité de l'être. Je ne dirais pas que la cuidité, c'est l'intelligibilité de l'être. Je dirais que la cuidité, c'est l'intelligibilité de la forme, de la détermination, de cette forme à quelque chose.
Alors, une question, eidos et être, parce que peut-être le moment d'en parler.
Oui, eidos et l'être. C'est sûr que eidos, c'est beaucoup plus cette intelligibilité catégoriale. Oui. Vous voyez, c'est l'intelligibilité de la classification. Vous voyez, vous direz, il y a des gens qui sont géniales du côté de la classification. Mais dès qu'ils quittent la classification, ils ne comprennent plus rien du tout. Ils ont un fichier vivant en eux, ils ont une classification parfaite. Alors ça, je dirais que c'est l'intelligibilité des catégories. Il y a des gens qui pensent tout le temps catégoriellement, et qui ne dépassent pas ça. L'autre jour, avec Fuka, c'était très net. C'est un être qui est déterminé, qui ne pense qu'au niveau catégoriel. Alors, comme la catégorie le fatigue, il va sortir de la catégorie par la métaphore. Nous dirions, sortons de la catégorie par le principe. Non, c'est trop difficile, il sort par la métaphore. Et ça, c'est très intéressant, je crois. Parce que il faut voir comment sortir de la catégorie. Les catégories, c'est fascinant. C'est systématique. Vous voyez, alors, comme nous sommes dans une ère non systématique, justement, à partir de la connaissance hegelienne qui a fatigué tout le monde avec le système qui veut être là, on garde encore l'hegelianisme, on a peur du système. On rejette le système. Alors que du temps de Leibniz, il fallait un système. Et c'est très curieux, vous savez, c'est extrêmement intéressant de voir combien les gens ont horreur du système. Dès que vous donnez un ordre, ils pensent tout de suite d'un système. Et ils disent les éléments. Je me souviens, c'était une petite expérience, c'était aux éditions du CERF, dans le temps où j'y allais, c'était la dernière fois où j'y étais. Il m'avait dit, mais vous intéressez à la théologie mystique, comment voyez-vous? Alors j'avais donné un peu l'ordre de la théologie mystique. Je vois encore le père Boisselot, c'est trop systématique ça. Alors je me suis retourné vers lui et je lui ai dit, au fond vous acceptez chacun des éléments. Ah oui, chacun des éléments est intéressant, mais pas l'ordre. Si ça résume bien dit, on comprend très bien. Quand on veut faire comprendre pleinement, on donne un ordre. Mais les gens pensent tout de suite l'ordre comme un système. Ils ne voient pas du tout la différence de l'ordre catégorial et de l'ordre analogique des principes. Ça, ils n'existent pas les gens. Alors, ils ramènent tout de suite à l'ordre catégorial. Alors, d'un ordre catégorial, de l'ordre des catégories, des 10 catégories-là, qui est un système, ça peut être un système, il est bien évident qu'on a abusé des catégories. On a abusé énormément des catégories. Dans la scolastique décadente, c'est l'abus des catégories. C'est une inflation extraordinaire des catégories. Alors, les catégories. Ils ont donné tout Kant aussi, les catégories. Kant n'a pas dépassé les catégories. Alors, comment sortir des catégories? Il y a deux manières. Ou vous sortez des catégories en venant au jugement d'existence. Sorti. Et le jugement d'existence vous permet de retrouver les principes. Ça, c'est la manière aristotélicienne et la manière thomiste de sortir des catégories. Il y a une autre manière de sortir des catégories, c'est après Kant, la métaphore. La métaphore, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de revenir à un procédé d'une connaissance symbolique et non plus une connaissance propre, une connaissance poétique. Et alors, c'est par le point de vue poétique que vous allez sortir des catégories. Il est évident que le poète comme tel n'est pas du tout un être systématique. Le poète comme tel ne cherche jamais à systématiser. Alors, vous êtes à l'aise parce que vous êtes en dehors du système et que vous êtes en face de relations particulières, sensibles, dans une métaphore. La métaphore permettant toujours de saisir quelque chose de nouveau, toujours lié au sensisme. Toujours lié au sensisme. Le lion de Juda. C'est une personne. Le lion de Juda. Achille est un lion et le lion de Juda. La métaphore est le symbole. C'est que je crois que toute métaphore est symbolique. Mais le symbole peut aller plus loin que la métaphore. Alors si on voulait creuser, on va creuser un tout petit peu par le point de vue de l'analogie, voir comment, dans la métaphore, il y a encore de l'analogie. Mais c'est une analogie impropre. Et elle est impropre à cause du caractère symbolique. Parce qu'elle n'analyse plus. Vous voyez ? Et alors, elle reste symbolique. C'est une connaissance symbolique ou poétique.
On dira que l'amour est un langage symbolique, il n'y aura pas
non, il a un langage métaphorique quand il devient poétique. N'est-ce pas ? Et la grande poésie est symbolique, elle n'est pas métaphorique. La très grande poésie. C'est, je crois, la différence entre l'écriture et la chose. L'écriture est symbolique, mais je ne dirais pas que l'écriture est métaphorique. Je crois que réduire l'écriture à la métaphore, c'est la diminuer terriblement et c'est oublié. Ça, c'est forcé. L'écriture n'est pas métaphorique, elle est symbolique. Parce que le symbole peut aller beaucoup plus loin et être plus proche. Alors on va essayer de préciser ça si vous voulez. Donc vous voyez, c'est important. Vous voyez donc comment la connaissance quiditative demeure analogique. Elle n'est pas analogique au sens absolu. Elle saisit un ordre, mais elle ne saisit pas l'analogie au sens fort, parce qu'on n'est pas devant la diversité première de l'homme. Ce que dit Aristote, allo, allo, voilà l'analogie. L'autre, l'autre. Donc, bien, vous n'utilisez pas l'autre, l'autre, vous utilisez un ordre dans les déterminations. Alors, cette connaissance quiditative qui aboutit à la définition n'est pas rigoureusement analogique. Cette connaissance quiditative et catégoriale demeure dans l'ordre des attributions. Alors, c'est très important, mais c'est très philosophique. C'est pour ça que je dirais que la connaissance des catégories est une connaissance propédeutique. C'est peut-être la première chose qu'on devrait faire pour enseigner la philosophie. Ce serait du reste très intéressant. Faire entrer dans les catégories pour bien montrer ce que représentent les catégories. Bon, il faudrait comprenons ensuite que la connaissance des principes nous fait entrer au contraire directement dans une connaissance analogique. Parce qu'alors je suis en face du réel pris en lui-même. Là je ne suis pas en face du réel considéré en lui-même. Je suis en face de l'œuvre de l'intelligence qui reconstruit le réel. L'intelligence reconstruit le réel en le définissant. Tandis que quand elle saisit les principes, l'intelligence ne reconstruit pas le réel, elle est vraiment une connaissance qui est dépendante du réel. Vous voyez, c'est un avoir, les catégories. C'est un avoir. L'intelligence possède. Quand l'intelligence saisit les principes, l'intelligence est mendiante. Elle est pauvre. Elle ne possède rien du tout. Ça, c'est difficile d'exprimer les principes, parce qu'on ne possède pas. Tandis que la connaissance quiditative, vous la possédez. Et là, vous avez une connaissance vraiment de possession. Mais alors, la connaissance quiditative a son intérêt, elle définit, mais n'étant pas philosophique, il faut la dépasser. Et on la dépasse par la connaissance des principes. Bon, alors, je crois que ça va à peu près. On va peut-être essayer de voir les autres points de vue qu'on venait de souligner. Je prends un peu, je reprendre rapidement les différents niveaux de la connaissance et montrer où avoir l'analogie. Expliquer son passage, la différence entre quidité et être. J'espère que maintenant vous comprenez. Quidité, qui est une forme d'intelligibilité de l'être. Et l'autre forme d'intelligibilité, ce sont les principes. Du moins, c'est ce que nous disons dans les principes. Exprimé dans les principes. Qui alors se rattache directement à l'être. C'est ça le point de vue très important à voir. Attendez, on va voir.
C'est pas dire qu'avec la catégorie, on reste dans la diversité.
Dans les catégories, on reste dans l'ordre. Venez. Avec les principes, vous êtes dans la diversité. une diversité analogique, une diversité qui va impliquer un ordre aussi, mais la diversité est antérieure. Tandis que de l'autre côté, l'ordre est premier à la diversité. Oui. Sur les... Oui.
Est-ce que vous situez les
transcendentaux dans... Ah, les transcendentaux, je les situe au niveau de l'être, et non pas au niveau privité. Donc, je crois que je peux effacer ça. Vous n'allez pas. Les transcendentaux, on les situe au niveau... Bon, je les situe au niveau des concepts que nous avons de l'être, de ce qui est. C'est... Le concept d'être ou la ratio ennipis. C'est toujours très très difficile de bien préciser ce que c'est que la ratio ennipis. C'est au niveau des rationnels. Alors c'est à la fois le concept avec son fondement dans le réel. Enfin, c'est ça, ratio ennipis. Ce que l'intelligence saisit de ce qui est. Alors, vous avez les cinq transcendentaux, je ne le répète pas, les dix prédicaments, les cinq transcendentaux, vous avez une réduction, ils sont cinq, il n'y a pas dix transcendentaux, il n'y en a que cinq. Et alors, il y a une espèce de réduction, c'est très vrai, les transcendentaux correspondent non pas aux catégories, mais à la saisie des principes. Alors, si on voulait avoir le passage des choses, on verrait. Commode. Et ce serait intéressant quand même. Ce serait intéressant pour vous aider à comprendre. Vous avez donc les dix prédicaments, je ne les cite pas ici, ils sont pré-philosophiques. Vous avez ensuite la saisie des principes de l'ousia. Vous avez ensuite le point de vue de l'acte. Et vous avez les cinq modalités de l'acte, c'est-à-dire la vérité, la bonté, l'être. Vous avez ensuite l'un. Et à partir de là, vous allez saisir les divers transcendants. Reims, Odou, Alpine, les différents niveaux. Hein. Les prédicaments sont pré-philosophiques, propédeutiques, pré-philosophiques. Tout le monde peut saisir les prédicaments, voir comment on attribue les choses, une bonne analyse grammaticale, intelligente, et c'est le Seigneur qui nous a donné la structure. C'est ça, nous essayons d'analyser la qualité, la quantité, le situs, la substance. Alors, ça, les dix prédicaments. J'entre en philosophie ensuite, et j'entre en métaphysique. En métaphysique, je saisis les principes propres de l'être. L'ousia, l'acte, et je vois comme modalité de l'acte le vrai et le bien, qui sont les modalités de l'esprit, de l'acte en tant qu'esprit. C'est l'être et l'esprit. Et puis, un, c'est la propriété. Toute la structure de la métaphysique. Je passe ensuite à la critique. Je réfléchis sur cette structure métaphysique pour en saisir l'intelligibilité ultime. Vous voyez, l'intelligibilité ultime. La critique, c'est saisir l'intelligibilité ultime et le rapport de cette intelligibilité avec le réel. C'est ça tout le problème de la critique. Alors, j'essaie de comprendre à partir de là comment ces principes philosophiques me permet de saisir toute la richesse de l'être. C'est un principe d'être. Les catégories ne sont pas au niveau de l'être, je vous l'ai dit. Et donc, ils ne peuvent pas saisir toute la richesse de l'être. Tandis qu'eux me font saisir toute la richesse de l'être. Et pour saisir toute cette richesse de l'être, je réfléchis sur ces différents principes, et je vois qu'en effet, Ousia, qu'est-ce que ça exprime ? Ousia, ça exprime la détermination fondamentale de tout ce qui est. Res. Unum, très facile, c'est l'être en tant qu'il est individué. L'acte, c'est ce qui me permet d'être moi-même et distingue des autres. Bonum et Verum, c'est l'intelligence humaine qui atteint son bien, qui cherche la vérité. Vous avez donc les cinq transcendentaux qui se rattachent à toute la structure de la métaphysique. Toute la structure de la métaphysique me permet de saisir les transcendentaux. Et les transcendentaux me permettent de réduire toute cette diversité de la métaphysique à l'unité de l'être. À la ratio. Oui. Alors je réduis tout à la ratio N10. Alors, cette réduction à la ratio N10, c'est une réduction. Vous voyez, c'est pour essayer de comprendre comment cette diversité se ramène à l'unité. Alors cette unité se fait au niveau de l'intelligibilité. C'est sûr. Au niveau de l'intelligibilité profonde, hein, l'intelligibilité radicale. C'est fait au niveau critique. Oui, donc ces transcendentaux se ramènent à la ratio N10. On ne peut pas dire que là je suis au niveau analogique, bien que c'est le fondement dernier de l'analogie. Oui, c'est le fondement dernier, mais ce n'est pas, pas au niveau analogique, puisque c'est une convertibilité des transcendentaux avec l'être. La convertibilité des transcendentaux avec l'être exprime comment toutes ces rationnesses, toutes ces rationnelles, res, unum, aliquid, bonum, verum, sont toutes selon la même compréhension et la même extension que la raison d'être. C'est un problème de convertibilité, donc un problème de réduction. On ramène tout à la ratio N10. Et la ratio N10, c'est ce qui est le plus central dans mon intelligence humaine. Mon intelligence humaine ne connaît quelque chose que quand elle le connaît sous le point de vue de l'autre. Et donc c'est vraiment ce qui est tout à fait fondamental dans ma connaissance. Ça va, c'est ça ? Situer. Hein, c'est, ce qui est important, c'est de situer exactement ces problèmes-là. Parce que quand on les voit les uns à côté des autres, puis on ne voit pas du tout comment ça se situe. Alors il faut situer les prédicaments pré-théologiques, l'ordre de l'attribution, la saisie des principes et la réflexion sur cette saisie des principes pour saisir comment dans ces principes je saisis l'intelligibilité plénière de l'être. Et alors, saisissant l'intelligibilité plénière de l'être, je ramène tout à la convertibilité, au transcendantal. Oui. Donc, différence entre fluidité et être, différence entre induction et analogie, hein, j'espère que vous comprenez, l'induction c'est une manière particulière pour notre intelligence d'atteindre ce qui est. Et ce qui est, l'analogie qualifie la connaissance, qualifie mon dire, mon langage, et se fonde dans la réalité. Alors, expliquer l'analogie métaphorique. Explication de l'analogie en théologie. Ensuite, ça c'est autre chose. Alors, explication de la métaphore. La métaphore. Alors, qu'est-ce que c'est que la métaphore, d'une façon classique ? La métaphore, d'abord, la métaphore se situe d'abord au niveau du langage, constamment. La métaphore, c'est une transposition, translation, d'une attribution à une autre réalité. L'exemple classique de la métaphore, le lac rit. Bon, le lac rit. Est-ce que c'est une métaphore quand vous dites une intelligence ouverte ? La porte est ouverte, la fenêtre est ouverte. Cette intelligence comme elle est ouverte. C'est une métaphore. Un langage métaphore, c'est une intelligence ouverte. comme vous dites, de l'acribe, mais votre. Donc, vous transposez une attribution qui est vraie proprement à telle réalité, vous la transposez à une autre réalité. Donc, dans tout langage métaphorique, il y a une certaine analogie. Je crois qu'on peut dire, et c'est terrible de ce que disait Ricoeur, moi c'est la seule chose que j'ai retenue, c'est la seule chose qui est vraie, le reste c'est erreur, il ne faut jamais retenir. La seule chose qui est vraie, c'est que la métaphore est premier moment génétique de l'analogie. Je crois. Je crois que instinctivement, l'homme emploie des métaphores. Les peuples primitifs emploient énormément de métaphores. Regardez les dictons. Ils sont presque tous métaphoriques. Un peuple primitif. Et alors, ce qui est intéressant à voir, c'est justement que c'est le premier moment, génétiquement, de l'analogie. Nous avons besoin d'exprimer quelque chose par autre chose, de plus connu. Le rire de l'homme me satisfait, alors je parle du lac qui rit. Vous voyez, je transpose. Oui, on va essayer de voir comment c'est le premier génétique de l'analogie par le point de vue symbolique. Oui, je mettrai comme ça. Je mettrai de cette manière pour saisir, hein, parce que c'est ça qui m'importe, c'est dans la structure de la pensée. C'est de saisir les trois aspects. Vous avez donc métaphore, qui va impliquer un langage symbolique, qui va impliquer un langage analogique. Vous avez métaphore, symbolique. Alors, comment, dans le langage métaphorique, le lac rit, une intelligence ouverte, Achille d'un lion. Dans ce langage métaphorique est toujours impliqué un langage symbolique. Premièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le langage symbolique, le point de vue visible demeure lié à l'invisible. Propre du langage symbolique. C'est que il n'y a pas abstraction. Il y a unité profonde qui se fait dans le langage symbolique. J'unis dans le langage symbolique le domaine du visible et le domaine de l'invisible. Et j'exprime l'invisible par le visible et dans le visible. Je crois que ça c'est le propre du langage symbolique. Le langage symbolique a horreur de l'abstraction. Dans ce sens-là que c'est un langage qui est au fond primitif. Ou dernier, un langage d'amour, quand j'aime, je n'aime pas l'abstraction. Et j'emploie un langage symbolique pour exprimer mon amour. J'exprimerai jamais l'amour par un langage abstrait. J'engage toujours par un langage symbolique. Parce que c'est justement un langage, parce que l'amour implique justement toujours quelque chose. Mais immédiate et j'exprime par le point de vue sensible. Je peux mieux l'exprimer par le point de vue sensible. Donc, la connaissance symbolique, c'est la présence de la réalité profonde dans le sensible, dans le visible. C'est pour ça que je dirais que toujours c'est l'invisible dans le visible. Je crois que c'est ça le propre de la connaissance. Alors, la connaissance métaphorique implique un langage symbolique, puisque c'est du sensible que je peux attribuer à quelque chose de l'invisible, l'intelligence ouverte. Voilà une intelligence ouverte. Voilà une intelligence fermée. L'intelligence n'est jamais fermée. L'intelligence n'est jamais ouverte. Mais j'exprime par un langage, une comparaison, un rapport, alors c'est là où on voit le point de vue d'analogie, une comparaison, un rapport qui me permet de passer de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on peut passer de l'un à l'autre. Je dirais, l'homme est capable de rire. L'homme rit. Le lac est capable de rire. Il est évident que c'est tout à fait autre chose, hein, au point de vue de la réalité. Au point de vue de la réalité, le rire de la, du lac et le rire de l'homme. Et j'emploie le même mot. Pourquoi? Parce que l'un me donne une figure qui me donne, qui me permet d'amener un symbolisme qui me permet d'attribuer à l'autre. Alors, je suis donc en face d'un rapport que j'établis. J'établis ce rapport. Et c'est très vrai, ça c'est Ricoeur soulignait ça, le télescopage qu'il y a dans la métaphore du rapport. Je fais tout de suite la chose. Et quand je fais ce télescopage, je fais justement la force de la réalité. Je montre quelque chose qui va me frapper. Et alors, grâce à cela, il y a comme une espèce d'admiration. Oui. Autrement dit, nous sommes en présence du premier moment de la connaissance analogique parce qu'elle n'est pas explicitée. Il y a un télescopage d'un rapport immédiat de l'un vers l'autre. A est à B, A est à B, ce que C est à D. Vous comprenez que, alors je passe de l'un à l'autre directement. L'homme rit, de la rit. Et je bloque les deux. Et dans le rire est présent l'homme qui est présent dans le lac. Et je vois le. Et j'applique immédiatement. Tandis que dans la relève, dans l'analogie proprement dite, je vais expliciter les quatre termes et voir comment se fait cette relation. Tandis que là, je ne l'explique pas. Donc je demeure en face d'un langage métaphorique qui est symbolique et qui est analogique. Il y a toujours une analogie dedans. Et je crois que c'est le premier moment de l'analogie. Parce que c'est un moment le plus simple, le plus direct, le plus concret. Vous voyez ?
Quand l'Écriture parle de la colère de Dieu,
quand Dieu parle de la colère de Dieu,
une main, c'est les narines.
Les narines, la main. Dieu qui marche. Vous voyez ? Alors ça, c'est un langage symbolique. C'est un langage symbolique divin, où j'exprime le visible par l'invisible. Alors, il y a une analogie dedans. Alors, est-ce que cette analogie est métaphorique ou est-ce que cette analogie est propre? Pour saint Thomas, certaines sont des analogies propres, d'autres sont des analogies métaphoriques. Quand je dis Dieu, il marche, quoi? Bon, c'est très facile, c'est que tout simplement, quand, dans cette analogie, quand il y a une imperfection, parce que c'est lié tout simplement au visible, et que ça demeure proprement au visible, alors je suis en train de métaphore.
J'ai envie de dire.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est délectif de dire
que c'est parce que ce n'était pas lié, tout dépend de la signification des choses. Vous voyez, quand je prends le rire, par exemple, quelle est la signification du rire? Quelle est la signification de narine? Ça implique le corps. Si ça implique le corps, donc, ça implique une imperfection. Et donc, attribuer à Dieu, ça ne peut être que métaphore. Tandis que si, au contraire, cette signification n'implique pas d'imperfection, quand je dis Dieu et le courage, la force de Dieu, le bras de Dieu et la force de Dieu, voilà, deux attributions tout à fait différentes. Alors, dire que c'est métaphorique les deux, vous comprenez que c'est, je confonds tout à partir de ce moment-là. Alors dire que, de fait, l'une est métaphorique et l'autre est symbolique, c'est différent. Et même, j'arrive plus loin, non seulement symbolique, mais elle est propre. Dieu, la force de Dieu, Dieu est le Dieu fort, Dieu est le Dieu saint. N'allez pas me dire que la sainteté, c'est métaphorique à Dieu. Si c'était métaphorique, ça voudrait dire qu'il y a une sainteté qui est plus parfaite que celle de Dieu. Ça devient de la de dire que le langage de l'écriture est métaphorique. Toujours métaphorique. Parce que ça veut dire que de fait, vous voyez, il y a une synthèse. Quand je dis le lac rit, le rire est propre à l'homme. Et le rire de l'homme est plus parfait que le rire du lac. Et c'est pour ça que c'est métaphorique. Dans la métaphore, il y a toujours une dégradation. Toujours une dégradation.
C'est plus davantage lié au sensible.
Ah oui, ce qu'il y a de plus unis au sens.
Le symbole ou le mot.
Oui, le symbole peut être spirituel. La métaphore est toujours sensible.
Et l'allégorie,
c'est. L'allégorie sera un autre procédé. Mais en fond, sera lié à la métaphore aussi, au symbole. Ce sera un peu le mélange des deux.
Le symbole peut être sensible.
Le symbole peut être sensible. Connaissance symbolique. Connaissance symbolique. symbole peut être sensible. Oui, parce que le symbole implique toujours l'invisible dans le visible. Vous voyez, Dieu est un roc. Alors, est-ce que Dieu est un roc? Est-ce que c'est métaphorique ou symbolique? C'est le roc. Oui, je crois que c'est métaphorique à cause du roc.
Un symbole sensible
et métaphore, c'est très proche. Mais c'est très proche l'un de l'autre. Quand vous prenez le langage symbolique qui implique le point de vue sensible, est-ce qu'il est toujours métaphorique? Je ne crois pas. Moi, je n'oserais pas dire qu'il est toujours métaphorique. Mais il faudrait chercher les liens entre les deux.
Je suis le bon pasteur.
Je suis le bon pasteur, c'est un langage symbolique. Pas métaphorique. Et il y a quand même le point de vue sensible. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que c'est symbolique?
Symbolique. Je
suis
le pain
de vie. C'est
l'évangile.
Je suis le pain de vie. Symbolique.
Je suis la vie. Quoi?
C'est métaphorique par le pain,
c'est symbolique par le pain. C'est le pain de vie. Par le point de vue de la vie, le pain de vie peut être symbolique. Le pain est évidemment métaphorique. Le pain est lié à la... Oui, il y a un aspect symbolique par le point de vue de la nourriture. Mais c'est par le point de vue de la nourriture. Et c'est pourquoi qu'on passe du symbole visible à l'invisible. Vous voyez, en tant qu'il est peint. Donc il ne serait pas métaphorique, ce point de vue-là. Tandis que le roc est métaphorique. Le lion de Judas, c'est métaphorique. Tandis que le pain, il y a une possibilité de purification. Je crois que c'est la possibilité de la purification. La métaphore ne peut pas être purifiée. Tandis que le symbole peut être purifié et arriver à une analogie véritable.
Oui. Alors tout anthropomorphisme dans la Bible est métaphorique.
Toujours.
Mais un guerrier.
Un guerrier, c'est un guerrier symbolique. Je crois que quand ça passe à l'homme, c'est la différence entre l'homme et la chose. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas voir là la différence entre dire c'est métaphorique quand ça regarde le monde physique?
Ah oui, c'est ça.
Oui, quand ça regarde le monde physique. Et quand ça passe par l'homme et relativement à l'homme, alors à ce moment-là, il y a un élément sensible et un élément spirituel, et par l'élément spirituel, ça peut être spiritualisé, ça peut être purifié. Oui, alors on aurait le symbolisme, c'est de rattacher, c'est de ramener l'homme à Dieu. La métaphore, c'est de conduire le monde physique. Tout le monde physique nous parle de Dieu métaphoriquement. L'homme nous parle de Dieu symboliquement, parce qu'il est l'image de Dieu. Vous voyez? Et arriver à la purification d'esprit. Vous avez dit ça, oui?
C'est intéressant à regarder. Est-ce que
vous avez fermé des concepts ouverts, c'est métaphorique. Le monde physique, l'univers sensible, physique, l'univers rattaché à Dieu, créateur. Tout l'univers physique me parle de Dieu. Vous voyez ? Donc, me permet de donner des métaphores à l'égard de Dieu. Connaissance métaphorique. Tout l'univers physique me parle de Dieu, connaissance métaphorique. L'homme. C'est les vestiges. Les vestiges sont métaphoriques. L'homme, image.
Donc on dit un vent de Dieu.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un vent de Dieu.
Hein?
Un vent de Dieu.
Un vent de Dieu. Le vent de Dieu. Le vent est sûrement métaphorique. Le souffle est symbolique. Le souffle est métaphorique. Oui, c'est le souffle.
La vie, c'est lié à la vie.
Vous voyez ? Et alors, vous avez. C'est ça qui était l'autre jour, tout à fait télescopé. Oui, le passage de l'intelligence. symbolique. Ici, vous avez le langage symbolique.
C'est une perfection.
Et ici, analogie propre.
La perfection des deux que vous avez, vous avez
analogie propre.
La sagesse,
par
exemple.
Quoi? La sagesse, vous avez là. Analogie propre, symbole de style. Oui. Vous avez donc métaphore, un langage métaphorique lié à la matière. C'est la matière. Alors, il y aurait la vie entre deux. Alors, est-ce que la vie va me donner une nouvelle catégorie? C'est très intéressant. Vous avez tous les degrés. Vous voyez? Vous auriez l'univers physique matériel, la vie.
La vie, est-ce que ce n'est pas du symbole?
La vie, l'homme et l'intelligence. Alors, vous auriez des symboles. Du reste, c'est le plus éloigné. Des symboles qui vont être purifiés en analogie propre et des symboles qui ne pourront pas être analogie propre. Et puis, la métaphore proprement dite. Vous avez donc 1, 2, 3, 4 niveaux. Ça veut dire ramener tout et la métaphore, c'est gros. C'est quand même très gros. Vous réfléchirez là-dessus. Je réfléchirai là-dessus pour essayer de comprendre. Et c'est ça qu'elle a fallu, après une conférence de l'auteur, montrer ça.
Oui, mais il
n'y a plus qu'au niveau
de l'imaginaire.
Il y a plus qu'au niveau quantitatif de la réalité.